Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média et bonjour à la belle ribambelle de professionnels
qui m'entoure.
Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoine et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Vous le magicien des mots.
Merci. Rime riche. Est-ce que vous pouvez prendre vos portables s'il vous plaît et regarder dans vos réglages quel est votre temps d'écran jour
en moyenne.
Combien de temps vous passez avec cet objet sous les yeux chaque jour?
Ça ne me le dit pas, bizarrement.
4h16 pour moi.
4h16, Julien.
C'est pas mal.
7h54.
Il explose tout.
Ah oui.
C'est ça.
Et 6h56.
C'est énorme. Je m'en sers comme GPS.
Ça joue en termes d'excuses.
Moi, je m'en sers de lumière aussi, de table de chevet. On va tous trouver des excuses, Jean-Luc.
C'est vrai qu'on est tous un petit peu accro, mais alors pour nos enfants qui sont en plein développement, c'est particulièrement inquiétant. Et avec nous ce matin, la sénatrice Agnès Evren. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez déposé hier une proposition de loi pour totalement bannir le portable à l'école et au collège. On va en parler dans un instant. Et puis dans la deuxième partie, le réalisateur des Visiteurs, de Papy fait de la Résistance ou encore du Père Noël est une ordure sera avec nous, Jean-Marie Poiré, pour ses mémoires absolument passionnantes. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Agnès Evren qui vient nous parler de sa proposition de loi pour faire respecter l'interdiction des téléphones portables à l'école.
Ouais, maintenant je suis plus crédible avec mon temps d'écran. Mais j'aime bien l'idée. J'aime l'idée parce que j'ai l'impression que plus notre téléphone devient intelligent, plus nous, on devient crétins.
Sérieusement, depuis le smartphone,
notre intelligence est officiellement sur disque dur externe. Alors, protéger les plus jeunes, c'est bien. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge, madame la sénatrice. L'interdiction des téléphones mobiles dans l'enceinte de l'école, c'est prévu par la loi du 3 août 2018.
Oui.
Donc on est bien d'accord que là, vous proposez une loi pour faire appliquer la loi.
Absolument.
Voilà.
C'est exactement ça.
Est-ce que dans 2 ans, quelqu'un ne voudra pas proposer une loi pour faire appliquer votre loi qui fait appliquer la loi?
Non, parce qu'elle sera efficace, la mienne.
Attention.
Non, parce que là, voilà. En fait, vous voudriez qu'on fasse comme en Espagne.
Ils arrivent le matin et ils déposent leur téléphone dans un casier.
Alors, j'ai quand même une question. S'ils n'ont plus de téléphone, qu'est-ce qu'ils vont faire aux toilettes? Ils vont être obligés de réfléchir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des blessés?
C'est risqué, en effet. Bon, alors Jean-Luc, ce matin, vous vouliez revenir sur cette émission qui ne perd pas de temps, Mariée au premier regard.
Oui, car moi, j'aime l'amour et les statistiques. Vous, Thomas, je vous apprécie à 62%.
C'est pas ouf. C'est
Anissa,
pas ouf.
À 74%. Et Julien,
à...
Non. Et encore, je suis large. Et Julien, à 82%.
Ah ouais, d'accord.
En temps normal. Quand il a bu un verre de trop, il me dit que je suis sa petite princesse, ça tombe à 12.
Quand même, attendez.
Donc pour ceux qui ont des soirées plus intéressantes que les miennes, je rappelle le concept du programme. Une femme et un homme se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage qui a lieu à Gibraltar. Oui, je sais, dit comme ça, on a l'impression que c'est le pitch de Very Bad Trip 4. Mais tous les postulants attendent ce coup de fil d'un des spécialistes.
Et je peux vous dire
qu'il y a un homme
compatible avec vous à 77%.
77%. Voilà, c'est honnête. Tu sais qu'avec lui, tu risques de te faire chier seulement 23% du temps. Ce qui est un bon ratio dans une vie de couple, je vous assure.
C'est pas mal. Hein.
Ludivine a une idée précise de l'homme qu'elle attend. Ce qui compte, comme dirait Anissa, c'est la taille.
La taille, j'ai vachement de mal avec ça. Moi, je suis sur du 1,85 à 90. Je suis sur du massif.
Ah ouais. Je suis sur du massif. Là, tu sais plus si elle parle de son futur mari ou si c'est une réunion de chantier. Je veux du massif et par-dessus, je mets du BA13. Le prétendant en question s'appelle Raphaël et il avoue avoir un défaut. Il recherche la perfection.
Un petit détail physique, c'est vrai que je pouvais remettre en question la relation.
Il y en a une, par exemple, quand je l'ai vue démaquiller, elle avait plein de petits boutons partout. Mais ça m'a fait directement un blocage, quoi.
Perso, j'ai eu plein d'acné, c'est vrai que c'est pas cool. Mais j'ai un petit message pour Raphaël. Si tu prends un stylo et que tu relis tous les points noirs, tu découvriras un cheval. Toi aussi, apprends le coloriage avec Jean-Luc Lemoine. Le pire, c'était la cérémonie, avant que les futurs mariés n'arrivent. Entre les deux familles, c'était la foire aux bestiaux. Ils avaient tous envie de vendre leur champion.
Non, honnêtement, je dis pas ça parce que c'est ma sœur, mais c'est une très très belle femme.
C'est une gravure de mode.
Ah oui, elle rentre dans une pièce, les gens se retournent.
Ça, je crois pas à cette expression. Parce que si les gens ne te regardent pas, pourquoi ils se retournent, hein? Ou sinon, c'est à cause de l'odeur. Du côté de la famille du marié, c'était c'est pas vrai. Mieux.
C'est le genre de garçon qu'on épouse. C'est pas un playboy qui sort, qui fait la fête et qui change de fille tout le temps. Alors qu'il pourrait, hein. Tu es tellement beau gosse.
Oui, il a 5 zizi, c'est pour ça que son slip lui va comme un gant. Ophélie et Loïc.
Excusez-nous, madame la sénatrice.
Bon, écoutez,
désolé.
Pendant que je fais ma rubrique, il y a madame la sénatrice qui était sur son portable, alors qu'elle vient pour.
C'est vrai.
Portable, s'il vous plaît.
C'est vrai.
Ophélie.
Très juste.
On marche sur la tête.
Vous voyez l'addiction, ce que c'est.
Voilà, c'est
fou,
ça.
Hein. C'est fou.
Ophélie et Loïc sont déjà passés. Par le mariage dans les épisodes précédents. Hein. Donc maintenant qu'ils sont mariés, logique, ils essaient de faire connaissance.
Ma plus longue relation, ça a été uniquement un an.
Ta plus longue relation?
Ouais. Je peux te rassurer, je suis l'homme le plus fidèle au monde. Ça a su.
Tu sais pas, t'as pas eu de longue relation.
Ouais. C'est pas faux. Ah, oui. Si t'es fidèle mais que t'es pas en couple, faut reconnaître que t'as moins de mérite. Ouais. Ce qui compte dans une émission comme ça, c'est aussi de trouver des bonnes illustrations musicales.
Les jeunes mariés vont passer quelques jours en tête à tête en Algarve, dans le sud du Portugal.
Ah, la musique portugaise. Donc c'est la science qui a réuni Loïc et Ophélie. Et là, ça a été une leçon pour tous les spécialistes. Car tu peux trouver un taux de compatibilité élevé. Tu peux prouver scientifiquement que deux êtres sont faits l'un pour l'autre. Mais il y a une chose que tu ne peux pas prévoir. Ça se passait au petit déjeuner, après leur première nuit passée ensemble.
Tu veux du jus ?
Oui, s'il te plaît. Je ne sais pas par quoi commencer.
Croissant, chocolatine.
Chocolatine, t'as dit?
Ah oui, c'est chocolatine.
Pas au chocolat, chocolatine, ils se sont séparés juste après, fin du concept. C'est ça la vraie vie.
Ah, il faut tester la compatibilité. Vous avez déjà vu ce programme ou pas, madame la sénatrice?
Non.
Marié au premier regard?
Non.
Ça vous a inspiré là, ça vous...
Oui, je me dis que ça peut être intéressant même pour les jeunes.
Vous êtes contre tous les écrans, même télé.
Mais non, moi je dis pas que le smartphone doit être le bouc émissaire, je dis juste qu'il faut le remettre à sa juste place. Mais il n'a rien à faire dans les classes.
Pas parce que quand on va de Jean-Luc Lemoyne.
Quand on va à l'école, on y va pour réfléchir, pour travailler, pour interagir avec les autres et non pas pour avoir le téléphone, les yeux rivés sur son portable.
Et on va en parler dans un instant. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Jean-Luc Lemoyne, que moi j'apprécie à 99%. Bon,
C'est vrai.
Lui, 74%.
C'est bon, t'es monté à 72%.
Ouais, bah super, merci Jean-Luc. À demain. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Agnès Evren, sénatrice. Les Républicains de Paris.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Agnès Evren, vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris et hier matin vous avez déposé une proposition de loi pour faire vraiment interdire les téléphones portables à l'école parce que, Jean-Luc le disait, hein, depuis 2018 les téléphones portables sont théoriquement interdits à l'école mais c'est pas vraiment appliqué en fait cette loi, c'est ça ?
Mais en fait, la loi de 2018 interdit l'utilisation des portables dans les écoles et dans les collèges, sauf qu'en pratique, en fait, rien n'empêche la détention, le port du téléphone portable dans les établissements scolaires. Mmh. Et donc, on s'est rendu compte...
Donc dans le cartable, quoi.
Dans le cartable. Ils sont censés être rangés et éteints dans le cartable, sauf qu'en fait, ils sont tout simplement dans la poche des élèves. Et qu'il y a une étude récente qui montre qu'en fait, un élève sur cinq avoue consulter son téléphone pendant le cours. Et moi, j'ai une professeure hier de 5e qui me disait on enseignait un cours de langue et en fait, détenir son téléphone pendant la classe empêche même la réflexion parce que certains l'avaient sur les genoux en train de faire Google Traduction pour trouver la solution. Ouais, et donc, quand on va à l'école, on considère qu'on y va pour recevoir un savoir, pour réfléchir, pour interagir avec les autres et non pas, en effet, pour essayer, comment dire, d'être rivé sur son téléphone avec des notifications qui tombent. Vous savez, l'UNESCO a fait une recommandation récemment, en 2023, qui interdit dans le monde entier l'utilisation des portables dans les écoles. Pour quelle raison ? Pour trois raisons. D'abord parce que ça a des effets délétères sur le plan mental et physique, parce que ça perturbe évidemment la concentration des élèves, puisque ça crée de la distraction. Deuxièmement, c'est un vecteur de cyberharcèlement. On voit de plus en plus des gamins qui sont totalement accros dans les classes, qui filment une scène de conflit entre un élève et un prof et qui immédiatement la mettent en fait sur les réseaux sociaux. Et donc, ça exporte la violence à l'extérieur de l'établissement. Mmh. Et évidemment, on a très bien remarqué qu'il y avait un lien entre les apprentissages et les résultats scolaires. C'est-à-dire que des élèves qui sont en difficulté...
C'est mesuré, ça ?
C'est mesuré, oui, ouais. Oui, absolument. L'UNESCO a prouvé, a signalé que, attention, ça réduit évidemment les progrès scolaires des élèves, parce qu'encore une fois, ça crée des difficultés de concentration pour les jeunes.
Oui, bien sûr, d'où la question posée par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, le 7 avril dernier. Elle avait dit « Je me demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l'entrée. » Et alors, donc vous l'avez pris au pied de la lettre, hein, Agnès Evren, parce qu'elle voulait juste une expérimentation, et vous vous dites « Non, il faut généraliser et faire une interdiction vraiment stricte. » Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette proposition de loi du
Mais coup en fait, la difficulté, c'est qu'on n'en est plus, à mon avis, à proposer des expérimentations. Là, il y a urgence parce que les portables et smartphones ont envahi le quotidien de nos jeunes. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus, si vous voulez, de rupture entre le temps scolaire, le temps passé à l'école et le temps passé à la maison. Puisqu'ils l'ont, encore une fois, les chiffres le montrent, ils l'ont en fait dans les classes. Et parfois, certains me disent, ils l'ont dans les vestiaires du gymnase où on les a surpris en train de regarder un match de foot, ou ils l'ont parfois dans les toilettes, ils se cachent pour aller regarder donc leur téléphone. Donc moi, je propose une mesure qui est très simple. La première, c'est donc d'interdire le port du téléphone portable à l'école, c'est-à-dire que où les parents décident que les élèves aillent au collège sans leur téléphone, donc ils le laissent à la maison, et
mais
c'est déjà le cas pour certains.
Mais s'ils l'emmènent quand même à l'école,
et
comment ça se passe concrètement?
Et puis s'ils l'emmènent, on organise factuellement, c'est-à-dire qu'on fait comme en Norvège, où en fait il y a des casiers où les élèves déposent à l'entrée de l'établissement leur téléphone.
Donc ça, ça demande une organisation pratique dans chaque école, dans chaque collège, ça
Absolument.
Peut mettre un peu de temps à se mettre en place
mais
aussi ça.
Moi je le propose que ce soit organisé dès le mois de septembre, et de toute façon, je veux dire, les enfants, les jeunes n'ont pas à venir à l'école avec leur portable. S'il y a urgence, les équipes pédagogiques peuvent tout à fait joindre les parents. Vous savez, quand on demande aux élèves à quoi vous utilisez votre téléphone, vous croyez que c'est pour appeler les parents?
Non, très
non.
peu, oui.
Non. C'est pour regarder des séries.
Ou limite à la
c'est
sortie, faire... quoi. Voilà.
Mais voilà, à la sortie. Ouais. Donc, ils peuvent très bien le déposer à l'entrée le matin et le récupérer le soir à la sortie. Moi, j'ai une professeure qui m'expliquait aussi hier qu'en fait, certains arrivent en classe et elle leur récupère. Alors, la crainte des jeunes, c'était « Ah, mais ne touchez pas à mon téléphone !» Alors, on leur promet de surtout ne pas toucher à leur téléphone, mais c'est vrai que
ça détend le climat scolaire. À l'entrée de chaque salle de classe, un petit panier dans lequel chacun mettrait son téléphone portable, c'est pas très très compliqué à mettre en place.
Absolument.
Et ça pourrait résoudre pas mal de problèmes.
Mais ça se fait dans le monde du spectacle, parce qu'on est obligé maintenant de faire ça maintenant auprès des adultes aussi, et une artiste comme Florence Foresti le fait maintenant dans ses spectacles. Ouais. On dépose son téléphone à l'entrée du spectacle, déjà pour qu'il n'y ait pas de fuite de vidéo, mais surtout pour avoir un public plus concentré et qui apprécie plus, donc même pour les adultes.
Et là, honnêtement, on voit les effets délétères et l'addiction que ça crée chez nos jeunes. Donc il est urgent
qui...
que ce débat soit mis sur la place publique, encore une fois, des addictions et de l'utilisation, comment dire, abusive des écrans. C'est pour ça que je propose aussi dans mon texte de loi, en fait, un message de prévention à caractère sanitaire, en expliquant aux familles, en sensibilisant aussi les jeunes, que l'usage abusif des écrans peut être dangereux sur le plan développemental, sur le plan intellectuel et sur le plan relationnel. Parce qu'un élève qui est rivé sur son téléphone, eh bien, ça l'isole et ça l'enferme. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un exemple intéressant d'un prof qui me disait, aujourd'hui, comme ils passent, en fait, ils ont accès à tout, ils ne gèrent plus la frustration avec leur téléphone. Et donc, quand on leur demande d'écrire un texte, certains n'arrivent même plus à écrire. Il faut voir les conséquences que ça a véritablement sur le plan, comment dire, de la réflexion.
Donc ça peut être une part de la solution, on espère que ça va être voté. Vous avez de bonnes chances que ce soit voté.
Écoutez,
ou pas,
là c'est même plus une question de clivage politique. Oui. Là. C'est, est-ce qu'on veut, c'est un enjeu de civilisation pour moi. Est-ce qu'on veut demain une génération d'enfants qui ne savent plus réfléchir, se concentrer et écrire? Et donc, je pense que ça dépassera les clivages partisans et que la droite comme la gauche, et d'ailleurs je saisis le Premier ministre et Mme Belloubet qui étaient d'accord sur le principe, hein, même si on n'était pas d'accord sur la méthode, parce qu'elle veut encore prendre son temps, de dire qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de toute notre jeunesse et de l'avenir de cette société.
Mais est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin? En Espagne, il y a un groupe de parents d'élèves qui ont créé le mouvement Adolescence sans portable, ce qui a conduit le gouvernement espagnol à se prononcer en faveur d'une interdiction carrément du téléphone jusqu'à 16 ans. C'est pour l'instant une recommandation de leur part, parce que c'est les régions là-bas qui décident. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller vers ça en France, dire aux parents de ne plus acheter de portable aux collégiens?
Écoutez, moi j'essaie d'être pragmatique, c'est déjà révolutionnaire si on arrive à interdire le port du téléphone dans les écoles. Après, il y a une majorité numérique, hein. Normalement c'est à l'âge de 15 ans. Là aussi, il faudrait que ça s'applique. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, à l'âge de 9 ans, ont déjà un téléphone. Donc, je trouve que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de prise de conscience collective, et notamment des parents. Il y a des parents qui laissent leurs enfants parfois la nuit avec leur téléphone, qui donc reçoivent des notifications. Et encore une fois, beaucoup de professeurs nous disent qu'on voit tout de suite les élèves qui arrivent très fatigués le matin à l'école, et ceux qui n'ont pas de portable, qui arrivent tout frais et qui sont totalement réceptifs aux apprentissages qu'ils vont recevoir.
Eh ben, on suivra l'avenir de cette proposition de loi d'Agnès Evren. Restez avec nous pour Merci. Suivre l'actualité des médias dans un instant.
Oui, puisque dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive sur Europe 1. Et on va parler de la nouvelle saison de Drag Race. Vous aviez regardé sur France Télévisions Drag Race. Eh bien, une nouvelle saison arrive. Elle a été présentée à France Télévisions hier. Et on vous dit tout dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, votre invité Thomas ce matin, la signatrice Agnès Evren. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et on commence avec les audiences. Et en général, le mercredi, c'est le téléfilm de France 2 qui arrive en tête. Est-ce que c'était encore le cas hier soir,
Julien? Oui, France 2 a même encore plus cartonné que d'habitude, cette fois avec la série Disparition inquiétante qui a rempli la salle. 4 700 000 téléspectateurs. La série Doc sur TF1 était loin derrière, 3 millions derrière avec 1,8 million. Déception pour Top Chef en légère baisse, 1,8 million aussi, c'est 200 000 de moins que la semaine dernière. Et puis on avait hier la première quotidienne de Secret Story à 17h30 sur TF1. Eh bien on était juste en dessous du 1,992 000 téléspectateurs, 10,8% du public, 24% des ménagères. Il y a une grosse concurrence à cette heure-ci. Hein. TF1 était loin derrière, tout le monde a son mot à dire sur France 2, loin derrière, question pour un champion sur France 3. Mais devant M6 et Le Juste Prix qui était à 633 000 hier. 992 000 donc pour info Thomas, TF1 à 17h30 avec les familles XXL à cette heure-ci et autour du million, on était donc dans la moyenne habituelle de la chaîne.
Et puis c'est vrai que la stratégie de TF1 autour de Secret Story se joue également sur les réseaux sociaux et là c'est vrai que c'est une résonance importante.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis France Télévisions a présenté hier la troisième saison de Drag Race France. Elle aura lieu plus tôt que d'habitude cette année.
Oui, parce qu'avec les Jeux Olympiques, ce concours de drag queen qui avait été très commenté sur les réseaux sociaux en 2022 et 2023 devra se terminer avant la fin du mois de juillet, au lieu de fin août. Nous n'avons pas encore les dates précises, mais Drag Race France pourrait donc commencer courant mai, soit un mois et demi plus tôt que d'habitude. Par ailleurs, on a appris hier que Jennifer devrait faire une apparition dans le programme en guest star. On sait aussi que comme l'an dernier, la finale sera enregistrée en public à Paris au Grand Rex et que le programme sera de nouveau diffusé le vendredi sur France.tv/ et sur France 2 en deuxième partie de soirée aux alentours de 23h. La chef des divertissements sur France Télévisions, Alexandra Redamiel, l'assure. Une fois de plus, le programme ne passera pas inaperçu cet été, comme elle le dit au micro européen d'Alexandre Omar.
Il faut s'attendre à des surprises parce que c'est ça en fait Drag Race. Drag Race France, c'est une envie de création et de se réinventer comme l'art du drag. L'art du drag en fait, c'est renaître, se réinventer, c'est recréer. Et finalement, c'est ce que la création et les producteurs et nous diffuseurs essayons de... On se challenge comme ça en tout cas pour cette émission.
La directrice des divertissements sur France Télévisions au sujet de Drag Race France, dont la saison 3 devrait commencer dans le courant du mois de mai. On en reparlera.
Et puis encore une figure du groupe Altis qui quitte le navire.
Nicolas Poincaré va ajouter son nom à la liste des départs enregistrés ces derniers mois. Pour rappel, la liste compte déjà les noms d'Aurélie Cas, de Bruce Toussaint ou encore Laurent Ruquier qui n'y a fait qu'un petit tour. Nicolas Poincaré, 62 ans, était chroniqueur sur RMC depuis 5 ans. Il animait une émission sur BFM Business depuis l'an dernier. Il va rejoindre la boîte de production de David Pujadas, Particule. Nicolas Poincaré, ancienne voix d'Europe 1 d'ailleurs, fera désormais essentiellement du reportage.
Et puis c'est l'application qui faisait cauchemarder de nombreux parents et que les autorités européennes voulaient voir disparaître à tout prix. À peine arrivée en France, TikTok Lite a été suspendu.
TikTok Lite, nouvelle application du géant chinois TikTok qui prévoit de rémunérer ses utilisateurs en fonction du temps passé devant les écrans à regarder des vidéos. En fait, plus on regarde, plus on amasse des pièces virtuelles qui peuvent être échangées ensuite en cartes cadeaux. Arrivée en France fin mars, cette application n'est plus disponible depuis hier. Le commissaire européen au numérique Thierry Breton avait prévu de prendre des sanctions aujourd'hui, dénonçant des risques graves pour la santé mentale. TikTok a pris les devants en fermant l'appli dès hier dans les pays européens. Cette fermeture ne met pas toutefois fin aux poursuites engagées contre TikTok concernant le risque d'addiction à la plateforme. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on passe qu'on franchit un palier supplémentaire avec cette appli.
Et pour le coup, c'est une bonne décision, Agnès.
Ah, mais excellent, c'était un scandale. Et vous savez qu'il y a un chiffre qui est très éloquent. Les jeunes dans le monde, en moyenne, en 2022, ont passé 2 heures par jour sur TikTok. Vous voyez la médiocrité de TikTok. On n'est que dans l'émotionnel, on n'est pas dans la réflexion. Et donc, la difficulté, c'est que les plateformes aujourd'hui se livrent une bataille dont les jeunes sont victimes, en fait, avec les algorithmes pour les rendre encore plus addicts.
Une bataille du temps de cerveau disponible, ouais.
Mais c'est ça. Et donc, je me félicite de la décision de Thierry Breton, évidemment.
Et puis, on a appris cette semaine les derniers scores de la Presse Magazine.
Et le magazine le plus lu de France est...
Paris Match, non ?
Télé Loisirs.
C'est un magazine télé, d'accord.
Effectivement, je précise qu'il s'agit ici d'audience globale, c'est-à-dire on intègre à la fois le papier et le numérique, et que ça concerne les 6 derniers mois. Télé Loisirs, qui est très fort sur le numérique, est très loin devant Télé 7 jours, qui perd du monde. Dans le monde des Mac Télé, on assiste d'ailleurs à une folle ascension en ce moment, celle de Diverto, qui collabore avec Le Parisien. Depuis la dernière étude, le titre a dépassé TV Magazine et Téléstar. Sinon, du côté des News Mag, Le Point remporte de justesse la bataille face à Paris Match. Quant à la presse féminine, c'est Femmes Actuelles qui mènent la danse. Tiens, puisqu'on parle de Paris Match, sachez que le numéro anniversaire 75 ans sort aujourd'hui avec en couverture la troupe du Splendide, on a Balasco, Chazelle, Lhermitte, Junio, Clavier, Blanc et Moineau, tous nés d'ailleurs quelques mois avant le lancement de Paris Match et tous réunis pour une séance photo exceptionnelle.
Et je vous conseille de lire ce numéro anniversaire de Paris Match parce qu'à l'intérieur, il y a une intelligence artificielle qui annonce ce qui va devenir de la famille royale en Angleterre. Et William ne sera pas forcément le roi. Vous verrez, il y a une surprise. Vous verrez qui va régner en 2054 grâce à l'intelligence artificielle.
À suivre dans ce numéro anniversaire des 75 ans de Paris Match. Et puis pour finir, une histoire étonnante, celle de l'acteur Théo Bertrand. Quand il a appris qu'il ne tournerait plus dans Plus belle la vie, il a tout plaqué pour aller faire le tour du monde.
Théo Bertrand a aujourd'hui 27 ans. On l'avait découvert en 2011 dans le rôle de l'Aztec dans La Guerre des Boutons, version 2011, donc avec Alain Chabat et Eric Elmostino. Ensuite, il a joué le rôle de Kevin Bellesta pendant 10 ans dans la série Plus belle la vie. Selon lui, la production lui avait promis qu'il ferait toujours partie de l'aventure quand la série est passée de France 2 à TF1. Mais finalement, il n'a pas été reconduit. Alors là, ça a été la déprime. Il a décidé d'aller voir ailleurs. Il a quitté son Vercors natal pour aller faire le tour du monde en bateau stop et tout ça sans argent. Et quelques jours, il a posté un message sur Instagram pour raconter son histoire, pour expliquer qu'il n'en voulait pas la production de Plus belle la vie. Il se dit aujourd'hui très heureux. Il se trouve actuellement à Puerto Rico. Il enchaîne les petits boulots très très loin des plateaux de tournage. Je l'ai contacté pour qu'il nous donne quelques nouvelles.
Voilà, je me suis fait mettre à la porte de manière pas très cool de la série où je travaillais pendant 10 ans. Après, j'ai une grosse déception amoureuse, donc je ne l'ai pas vu venir, mais j'ai pris une grosse dépression. Maintenant, j'essaie d'aller le plus loin possible, d'aller de bateau en bateau, de rencontre en rencontre. J'ai fait des rencontres incroyables, je partage tout sur mon Insta. Je suis tout seul, j'ai pas d'équipe avec moi, donc c'est vraiment vous mon équipe. Et j'étais très inspiré par Nu et culotté. Et j'irai dormir chez vous, ça m'a toujours fait rêver. Et maintenant, c'est que ça soit moi qui parte un peu à l'aventure et qui puisse le montrer aux gens, c'est... je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui. Et je remercie Europe 1 de pouvoir partager ça avec vous.
L'acteur Théo Bertrand, parti faire le tour du monde. Il ne reviendra que dans 1 ou 2 ans, m'a-t-il dit. En attendant, vous pouvez suivre ses aventures sur son compte Instagram. Étonnant compte Instagram. Hein. Théo Bertrand, il compte déjà près de 100 000 abonnés.
En tout cas, il est à la pêche. Hein. Il a l'air d'être en forme.
Bah, comme quoi, parfois, les ruptures amoureuses, aussi difficiles puissent-elles être, et ça donne un coup de boost.
Et sur son compte Instagram, on a vraiment l'impression de regarder un épisode de J'irai dormir chez vous. Hein. C'est vraiment étonnant.
Bien.
Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média Inscription gratuite sur europe1.fr. Merci beaucoup Agnès Evren d'être venue ce matin.
Merci à vous pour votre invitation.
Au micro d'Europe 1. Et puis on va suivre donc l'avenir de votre proposition de loi pour interdire totalement et vraiment, vraiment cette fois-ci le portable à l'école. Merci d'être venu.
Et Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas.
Oui, on sera avec le réalisateur Jean-Marie Poiré qui livre ses mémoires de tournage dans un livre absolument passionnant.
Et puis vous le savez, tous les jours, Sophie Davant vous invite à jouer. Sophie et les copains, c'est de 16h à 18h sur Europe 1. Vous serez aidé par sa bande de copains et son invité aujourd'hui, Tom Villa, pour la série Mademoiselle Holmes sur TF1. Vous allez pouvoir tenter de décrocher le jackpot. Pour vous inscrire, vous envoyez Sophie au 7 39 21, 75 centimes plus coût du SMS, 3 SMS pour s'inscrire. Tous les jours, 16h-18h sur Europe 1.